Cet épisode a été rendu possible grâce à la contribution de ArchiPro. ArchiPro est une application web et mobile de gestion de projets de construction. Développée par une jeune entreprise, le logiciel fait déjà ses preuves dans le milieu de la construction en Côte d'Ivoire.
Faire simple, la géotechnique, en fait, c'est l'étude de l'adaptation des ouvrages à leur environnement. En fait, c'est une science, c'est de la géoscience. C'est de la géoscience, il faut qu'on le dise, mais c'est la plus récente, en fait, des géosciences. Parce que la géo, etc., etc., c'est des sciences qui datent de plusieurs années. Le projet de réhabilitation du pont, c'était en fait de remettre une réhabilitation, c'est-à-dire de remettre le pont à neuf, mais sans construire un nouveau pont, c'était remettre le pont à neuf. En fait, remettre le pont à neuf, il y avait plusieurs paramètres à analyser. Il y avait déjà la superstructure, ça veut dire tout ce qui est pile, tout ce qui est tablier, etc. En fait, on a vu qu'il y avait un état de dégradation. Vu l'histoire du pont, je pense que l'État ivoirien ne voulait pas abandonner le pont. Donc, ils ont coupé. On s'est rendu compte qu'en fait, une faiblesse des fondations existantes. Donc ça veut dire, si on réhabilite la superstructure et que si on réhabilite la structure et que après les fondations on n'y touche pas, c'est comme si on n'avait rien fait.
Hello, bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil. Ici Alama Dogo. Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 4, je reçois Sankara Ozias. Sankara est un ingénieur géotechnicien qui a travaillé sur certains projets de génie civil importants de la ville d'Abidjan, tels que la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny et la tour F au plateau. Il nous parle de l'origine de son désir d'être ingénieur génie civil depuis sa tendre enfance, ainsi que son cursus scolaire qui s'est déroulé en grande partie au Burkina Faso, son pays d'origine, puis en France pour ses deux masters. Après avoir brièvement parlé de son expérience professionnelle, nous avons longuement discuté du projet de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny. Nous avons abordé la problématique relative à cette réhabilitation, les méthodes et techniques utilisées par son entreprise, ainsi que les difficultés et contraintes auxquelles il faisait face. Durant toute cette discussion, nous avons expliqué au mieux les thèmes abordés afin que chacun puisse comprendre l'idée générale. La discussion s'est achevée sur le projet de construction de la tour F au plateau, suivi des conseils aux plus jeunes. Cet épisode est un condensé d'informations relatives aux travaux et au contrôle de pieux dans le cadre de la construction d'un pont. N'oubliez pas de commenter, d'en parler autour de vous et de noter 5 étoiles le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonsoir Ozias.
Bonsoir. Comment ça va?
Ça va bien, merci. Et toi?
Bien, merci.
Merci d'avoir accepté l'invitation pour passer sur PGC, le podcast du génie civil.
Merci à toi.
D'accord. Pour commencer, je vais te demander de te présenter déjà. État civil, formation. On va dire métier actuel et ainsi de suite.
D'accord. Je suis Ozias Sankara. Je suis ingénieur en géotechnique. Et pour parler un peu de mon parcours, je fais mon parcours essentiel de mon cursus scolaire au Burkina. Après un bac scientifique, J'ai intégré l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement en 2009 pour un bachelor en ingénierie que j'ai obtenu en 2012. Après cela, je suis allé à l'Université de La Rochelle. J'ai suivi un master en génie civil, option structure. Donc, 2012 à 2014, master en génie civil, option structure. Et pendant cette formation, j'ai eu à faire un stage en laboratoire de géotechnique. Et en fait, j'ai aimé, ça m'a pris de faire un deuxième master. Donc, j'ai fait un deuxième master en génie géologique, orienté géotechnique et traitement des cités sols pollués. Donc, à l'Université Paris-Sud à Orsay.
D'accord.
Et voilà. Ça, c'est mon parcours, mon cursus, ma formation académique. Et après, pour parler de mon expérience professionnelle, après mon deuxième master en géotechnique, j'ai travaillé un an en France, essentiellement sur un centre de TP. J'ai fait un centre de TP, plus une entreprise qui s'appelle Forsol.
Forsol, c'est bien ça?
Forsol, c'est ça.
OK.
En fait, c'est un bureau d'études géotechniques qui fait à la fois laboratoire et tout ce qui est études de sol pour les constructions de bâtiments ou d'art, d'infrastructure. Donc, voilà. Et après ça, j'ai senti le besoin de rentrer en Afrique. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire où j'ai intégré la BGM, où on s'est connu d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Et je suis resté, je pense, une année à la BGM, de mai 2016 à mars 2017. Je suis resté à la BGM où j'étais ingénieur chargé d'études en géotechnique et ensuite j'ai intégré une société minière qui s'appelle SFTP, une société de forage, de travaux de mining. Mais par contre, je ne travaillais pas sur une mine, j'étais chef de projet pour un projet que le conseil d'administration avait monté en parallèle. En fait. C'était un projet pour une usine de fabrication de briques en terre cuite.
Briques en terre cuite, ce qu'on appelle les BTC là.
C'est pas vraiment des BTC, c'est vraiment de la terre cuite. En fait, c'est de l'argile et en fait, on dans des fours, en fait.
Voilà. D'accord.
C'est pas les briques, mais c'est plutôt vraiment de la terre cuite. C'était le projet, mais bon. Je sais pas si le projet a vu le jour actuellement parce que je suis parti avant pour rejoindre SPI Batignolles Foundation. Je les ai rejoints en 2018, le cadre du projet de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny. Je suis encore avec eux sur différents projets. On a travaillé certainement sur la forêt. Actuellement, on travaille sur la réhabilitation du stade.
Voilà, d'accord. Peu,
c'est mon parcours académique et professionnel. Voilà. Donc, depuis 2018, ingénieur en géotechnique, je suis bâti en fondation. C'est que ça, le Côte d'Ivoire.
D'accord. Et là-bas, ça fait combien de temps, à peu près?
Je suis là-bas depuis 2018. Donc, on continue. Donc, ça fait bientôt 4 ans.
Bientôt 4 ans, oui. D'accord.
C'est ma plus grosse, c'est ma plus grande expérience professionnelle dans la même boîte.
Oui, mais je pense que tu as travaillé sur des projets vraiment conséquents aussi. Hein.
Oui, c'est ça. Après, je suis du genre à ne pas partir en cours de projet. Donc, et en plus, je me sens bien là-bas, donc je ne vois pas pourquoi je...
Si, bien sûr. Quand on se sent bien, il n'y a pas de raison de partir. D'accord. J'ai toujours, on va dire, une deuxième question que je pose aux invités sur le podcast, c'est pourquoi le génie civil? Qu'est-ce qui t'a motivé à embrasser cette carrière-là?
Pourquoi le génie civil là? Ah, c'est une question quand même.
Oui, on va dire durant les deux ou trois premiers épisodes, j'ai eu des réponses auxquelles je ne m'attendais vraiment pas. Hein, donc, j'aimerais bien savoir pourquoi toi, tu as choisi d'embrasser la carrière de génie civil.
Franchement, dès la base, je voulais faire du génie civil. Mais pour être honnête, je ne connaissais pas vraiment le métier d'ingénieur. Mais j'avais un oncle architecte, en fait, avec qui j'ai traîné sur quelques chantiers. J'ai vu des chantiers de construction, ça me plaisait. Mais ce n'était pas vraiment ça qui m'a motivé. C'est juste que je voyais que les entrepreneurs de BTP, ils étaient bien nantis, ils avaient de l'argent. Mais soyons honnêtes, soyons honnêtes. Quand tu es. Quand
Le rêve de tout gosse, quoi. Quand tu. Ben, au fait,
Adolescent, tu
le
vois
souci,
l'oncle.
c'est que quand tu es jeune, tu vois les entrepreneurs du BTP, ils sont tous nantis, mais quand tu commences à. Tu rentres dans le métier, tu te rends compte que ben, tout le monde n'est pas nanti en réalité.
Bien sûr. Ouais, donc en fait, c'était. J'avais des oncles qui voulaient des plus grosses voitures. Je demandais, oui, il est entrepreneur, il est
Ouais.
dans le BTP. C'est comme ça que j'ai voulu faire du BTP, sans savoir vraiment ce que ça impliquait.
Oui, je
Et
vois.
après, j'ai commencé ma formation, par contre, aux 2 yeux. À un moment, j'ai plutôt été attiré par l'énergie.
Oui,
J'étais
parce que
attiré
là-bas,
par.
je pense que c'est ils sont vraiment orientés énergie aussi, hein. Eau, énergie.
Énergie, font du génie civil aussi, mais bon, après, en fait, c'était une des premières écoles en énergie, et l'énergie, en fait, c'était un secteur qui émergeait en Afrique de l'Ouest. On parlait d'énergie renouvelable, on parlait d'efficacité énergétique, donc ça m'a plu. Et en regardant les matières scientifiques, donc en fait, après le bac, je voulais plus faire du génie civil, je voulais faire de l'énergie, mais bon. Quand je suis arrivé en France, et d'ailleurs quand je partais en France, c'était pour suivre une formation en énergie qui s'appelait GI2R ou quelque chose comme ça. C'était gestion et intégration de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ingénierie du bâtiment. Mais après, quand je suis arrivé, que j'ai vu le programme de la formation, c'était une
Oui.
formation où on te parlait d'isolation thermique, etc., etc. Franchement, quoi, si je veux
Je
faire
me
ça.
rappelle que j'ai vraiment pas aimé ces cours-là. Hein. Disons que j'ai pas capté quoi en cycle ingénieur.
Un peu eu le temps de suivre ce cours-là parce que je me suis dit, c'est pour faire cette matière-là, je ne vais jamais revenir travailler en Afrique. En Afrique, je vois personne qui fait de l'isolation thermique par l'intérieur, quelqu'un qui, tu vois, met du polystyrène sur les façades de ton bâtiment, comme quoi il n'y a
On va
personne.
dire quoi, un bâtiment, deux bâtiments sur 100.
Je voulais, parce que vraiment l'objectif, c'était de se former et revenir. Donc, ça ne sert à rien de faire des où tu pourras pas. Peut-être on dira tu seras un pionnier dans. C'est plus difficile et parfois c'est pas intégré en Afrique. Donc mieux vaut faire une branche, on a encore un besoin immédiat et c'est plus simple quoi. Donc je me suis orienté comme ça dans le bâtiment. Enfin je suis revenu à mes premiers amours si on veut.
Oui,
Donc
mais le bachelor aux 2 yeux, c'était quoi exactement?
en fait, le bachelor aux 2 yeux, c'est un bachelor généraliste en fait. Les
D'accord.
premiers 3 premières années, si tu veux, c'est comme des années préparatoires en fait. On fait du tout. On fait des maths, on fait du génie civil, on fait de l'énergie, on fait de l'assainissement, on fait du traitement en eau potable. Et en fait, c'est à partir du master que en fait tu choisis en fait ta, enfin on appelle ça une mineure ou si tu veux, ta spécialisation en gros. Tu choisis
D'accord.
soit un master en génie civil, et là tu feras un master 1 en génie civil et un master 2 encore. Tu choisis encore une
La
spécialisation,
spécialité.
soit ouvrage, etc. Donc pour revenir à ce qui m'a attiré dans le génie civil, disons que c'était ça, mais le hasard a voulu que je fasse un stage en géotechnique. Ça a été un déclic, franchement. C'était oulala. Je pouvais pas comprendre que. En fait,
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu as fait un master en calcul en structure. Comment tu te retrouves dans un laboratoire ou un bureau d'études géotechniques?
Mais en fait, le stage en génie civil, c'était un stage de master 1. Donc, en fait,
D'accord.
l'objectif, quoi qu'il en soit, même si tu fais de la structure, en première année de master, c'était encore généraliste, en fait, des structures du bâtiment.
OK.
Calcul de fondation, on avait des cours calcul de fondation, géotechnique appliquée, on faisait même des TP sur les formulations de béton, sur les études de sol. comment exploiter des résultats d'études de sol. Donc, c'est comme ça. Et en fait, c'était un stage d'immersion, en fait. C'était pas un PFE. Donc, j'avais le choix de faire, en fait,
un peu le tout, quoi.
En fait, si tu veux, c'est ça qui a fait que je suis allé faire un stage en géotechnique en laboratoire. Et franchement, c'était incroyable.
C'était vraiment du laboratoire seulement ou bien il y avait des sondages et tout?
J'ai fait beaucoup de laboratoires. Ironie du sort, je n'ai pas fait du tout de sondage à ce stage. J'ai fait beaucoup de laboratoires et surtout du contrôle sur site. Tout ce qui est auscultation sonique, essai d'impédance.
D'accord.
Contrôle de remblai au pénétromètre.
Il n'y avait pas de plaques, des choses comme ça.
J'ai fait des essais de plaques. En 2 mois et demi, j'ai balayé presque.
Ouais, ben c'est énorme ce que tu dis. Pour quelqu'un qui se connaît en laboratoire, en 2 mois, faire des impédances, des auscultations soniques, des essais de plaques et tout, c'est beaucoup pour un stage d'immersion, quoi.
C'est pas. C'était un stage vraiment complet et c'était pas simple parce que je commençais à 7h, je finissais. J'étais censé finir à 17h, mais bon. Parfois, ils étaient obligés de me chasser du labo parce que j'étais là, c'est à finir, etc.
Tu avais vraiment été captivé alors.
Et j'aimais vraiment ce que je faisais. Donc, voilà. Et après, comme tu le dis, effectivement, vu que j'ai fait. Je faisais un master en bâtiment. Je ne pouvais pas refaire le PFE en géotechnique.
Mmh.
Donc, faire un stage. Pour mon PFE, j'ai fait un stage en conduite de travaux chez Colas.
Oui.
En France pour pouvoir valider mon master. Et après, quand même, j'ai voulu me remettre en géotechnique. Donc, j'ai vu pour pouvoir me convertir. Parfois, c'est quoi? Tu peux avoir les compétences, mais il faut souvent un diplôme qui t'ouvre les portes, en fait.
C'est clair.
Je peux faire de la géotechnique et puis je postule à chaque fois avec un diplôme de
structure. C'est pas toujours évident.
Parce que qu'on va m'appeler.
Bon, on valide dans les débuts parce que après, quand tu as un CV bien fourni, le diplôme initial, c'est pas ce qui est plus important, mais au début, c'est ce qui ouvre les portes.
Pour commencer, pour pouvoir se faire une expérience et faire un an dans le milieu. Donc, mais pour pouvoir m'ouvrir les portes, j'ai décidé de faire une année de un master 2 en géotechnique. Et en plus, ce master 2, c'était une formation en alternance, qui était ce qui me correspondait parfaitement.
Okay.
En fait, tu faisais un mois de cours et je faisais un mois de stage en entreprise. Donc, j'alternais cours et expérience professionnelle. Et à la fin, je faisais 6 mois en continu en entreprise. Donc, suite à ça, j'ai obtenu mon master. Voilà, je me suis retrouvé dans la géotechnique et je ne l'ai plus jamais quitté.
Donc, c'est-à-dire voilà. Que ton diplôme d'ingénieur, ton master en structure, tu ne l'as jamais utilisé en réalité?
Je ne dirais pas que je ne l'ai jamais utilisé parce que ça me sert beaucoup. Parce que quoi qu'il en soit, en bureau d'études géotechniques,
ouais.
Les compétences sont quand même... importante parce que tu arrives à quand tu comprends la structure c'est une question de descente de charge après tu parles de béton quand tu fais de la géotechnique même quand tu fais un calcul de fondation tu es même quand c'est juste une dimension une étude géotechnique tu es obligé de parler un peu de la résistance structurelle de tes fondations.
Oui, c'est clair.
Donc, et après quoi qu'il en soit quand il y a par exemple des diagnostics de structure les premières personnes qu'on appelle, c'est des laboratoires de géotechnique. Donc, ça peut aider. Donc,
le background structure apporte un plus ça.
Donc, en fait, il y a pas mal d'offres que j'ai vues où on demandait vraiment une double compétence structure et géotechnique. C'est complémentaire, quoi. Quoi qu'on dise, c'est vraiment complémentaire. C'est complémentaire.
Oui, je vois. Comment on appelle ça? On va dire que tu as eu un master en géotechnique. Si tu devais définir la géotechnique à quelqu'un qui n'est pas du métier.
Quelqu'un qui n'est pas du métier, je dirais que en fait.
Ou bien quelqu'un qui n'est pas du métier ou à un jeune ingénieur ou un jeune technicien qui s'apprête à embrasser le milieu professionnel.
Pour faire simple, la géotechnique, en fait, c'est l'étude de l'adaptation des ouvrages à leur environnement. En fait, c'est une science, c'est de la géoscience. C'est de la géoscience, faut qu'on le dise, mais c'est la plus récente en fait des géosciences.
Mmh.
Parce que la géologie, etc., etc. C'est des sciences qui datent de plusieurs années, de, je dirais même dizaines, voire centaines d'années. Mais la géotechnique, c'est une science vraiment, géoscience qui est assez récente, qui est nouvelle. Donc, et en fait, en géologie, on utilise plus le sol et les formations en profondeur. Et en géotechnique, on va s'intéresser que ce qui est en surface. Donc, en fait, c'est étudier l'adaptation des ouvrages à leur environnement. Quand je dis l'adaptation, c'est comment intégrer un ouvrage dans son environnement, aussi bien du point de vue de résistance, du point de vue de stabilité, mais aussi du point de vue environnemental, du point de vue. Voilà, en fait, c'est ça, en fait. Donc, le géotechnicien,
Oui, vas-y, vas-y.
en gros, il doit en fait définir les conditions pour intégrer un ouvrage dans son environnement.
Dans un environnement donné, oui. Souvent, ce que j'ai tendance à dire, comme on appelle ça, à des personnes qui ne sont pas du domaine, c'est que en réalité, on peut construire partout. Souvent, les gens disent, bon, ce terrain, il n'est pas bon et tout. On peut construire partout en réalité. Dès que tu fais tes sondages, tu as plus ou moins des informations sur le sol. Peut-être que la fondation que tu vas faire, ça va te revenir cher. Je pense que c'est ce volet-là que les gens ne savent. Disons, le fait de ne pas vouloir dépenser un certain montant, on dit on ne peut pas construire. Sinon, en réalité, on a les moyens pour construire partout avec la géotechnique. Tu penses pas?
Oui, tout à fait. Si, tout à fait, on peut construire partout avec. C'est vrai que la géotechnique peut définir bien de moyens pour pouvoir s'intégrer partout. C'est pour ça que je dis que c'est l'étude de l'intégration des ouvrages dans leur environnement. Je veux dire, un géotechnicien, tu arrives, tu lui dis, je veux construire ici. Lui, il peut te dire, voilà, si tu veux construire ici, voici les conditions, voici les conditions. Et ça peut te coûter X. Mais voilà, pour que ça te coûte moins cher, je te propose quand même d'aller construire ici.
C'est
Mais
ça.
sinon, là où tu construis, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais voilà ce que tu dois faire pour pouvoir construire là, pour que ton ouvrage soit stable, pour que ton ouvrage résiste dans le temps, pour que ton ouvrage, etc. Voilà, c'est ça quoi. Donc en fait, en gros, c'est ça.
Ok. Dans ta présentation, tu as parlé de bureaux d'études géotechniques. Ce
Oui.
sont des choses qui, en Afrique, ici, on ne fait pas la différence. Un laboratoire, en Côte d'Ivoire, ici, on n'a pas de bureau d'études géotechniques proprement dit. Les laboratoires font le travail de laboratoire pour les sondages. En même temps, on a des ingénieurs qui font les calculs qui jouent le rôle de bureau d'études géotechniques. Tu peux donner un peu la différence entre le bureau d'études géotechniques et puis le laboratoire même qui s'occupe de tout ce qui est sondage, essais et tout.
En fait, quand on prend un laboratoire, en fait, le laboratoire, il va être un peu, il va faire les études géotechnique, mais il va être un peu plus, je dirais pas évasif, mais un peu plus superficiel. Ça veut dire, et il va se limiter à donner des hypothèses, à donner différentes solutions. Par exemple, pour l'adaptation de l'ouvrage pour des fondations ou pour des soutènements, etc. Tout à l'heure, je te disais par exemple que par exemple, la double compétence en structure, ça sert. Ça
Oui.
sert surtout à un bureau d'études géotechniques plus qu'un labo. Parce que non, un laboratoire, quand on parle de labo, c'est faire des essais et transmettre des résultats. C'est ça un laboratoire. Mais quand on définit l'enchaînement des missions géotechniques, il y a un minimum de résultats qu'il faut donner. En fait, quand on prend par exemple un laboratoire, généralement, le laboratoire géotechnique, au mieux, s'arrêtera en fait en G2. Quand je dis G2, parce que là, il y a une norme qui définit l'enchaînement des missions géotechniques en
Si, si,
fonction de
de
la.
G0 à G5 là.
C'est ça. Maintenant, on parle plutôt de G1 à G5 avec la nouvelle norme, la NFP 94-500. Et en fait, en G2, il y a la G2 Pro. C'est-à-dire que tu limites en phase projet. Donc en fait, un laboratoire, au mieux, se limitera en phase projet. Par contre, un bureau d'études géotechniques complet va aller jusqu'en phase G3, ça veut dire en phase d'exécution. Les études
D'exécution.
d'exécution, quand je dis études d'exécution, c'est-à-dire les études d'exécution, tu reprends la G2 Pro et en fait, tu détailles, tu étudies chaque ouvrage géotechnique spécifiquement. En fait, le laboratoire te donne les hypothèses de façon globale. Il va te dire, par exemple, pour les fondations, tu dois faire soit des pieux à 40 mètres ancrés dans tel sol et la résistance des pieux sera de l'ordre de, je vais te donner là, l'élu de XM et de X kilonewton, de l'ELS, etc., etc. Donc, quand tu prends, par exemple, le bureau d'études biotechniques, en phase exécution, tu dois calculer chaque fondation élément par élément. Je veux dire, tu dois donner chaque fondation élément par élément et tu dois faire le dimensionnement à partir de la descente de charge qui arrive sur la fondation. Donc, en fait, et là, tu vas jusqu'à même définir parfois le ferraillage des fondations, le type de béton et faire les plans d'exécution pour les éléments de fondation ou les ouvrages. Quand je dis soit les fondations, soit les soutènements, etc. Alors que le laboratoire, il va rester là. Et dans beaucoup de cas, il y a des bureaux d'études géotechniques qui ont leur laboratoire intégré, en fait. Voilà.
Oui, je pense que en Côte d'Ivoire ici surtout, c'est un peu ça. Peut-être que les gens ils vont pas tout le temps jusqu'à la G3 exécution et tout, mais je pense que c'est un peu ça. Le laboratoire géotechnique, il a
Pardon. Les gens ils vont pas. Ça c'est ce que tu dis, c'est vrai. Mais ce que je constate ici, c'est que en fait les entreprises de fondation, en fait, ils ont généralement leur bureau d'études intégré. Donc, habituellement,
les entreprises de fondation
ont leur bureau d'études intégré.
Ok, d'accord.
Et pour ça, ils ne confient pas généralement la G3 à un bureau d'études. Donc, voilà. C'est pour ça tu peux dire que tu
n'as pas. Mais en même temps, les entreprises de fondation dont tu parles, ce n'est pas des entreprises locales.
Hein. Tout à fait.
Donc, parfois, je me dis que est-ce que c'est. Ce n'est pas dû au fait que les gens, en réalité, ils ne font pas confiance à ceux qui sont ici. Ou bien c'est.
Je ne dirais pas que c'est forcément une question de confiance, mais c'est plus une question d'habitude. Parce qu'à la longue, quand j'ai une entreprise, la plupart des entreprises que je connais, ils ont leur bureau d'études intégré.
Oui, effectivement.
L'interne, il n'y a plus le besoin en fait, de sous-traiter en fait, les études ailleurs. Parce que tu ne paieras pas, tu as déjà des ingénieurs qui sont
qualifiés. Des ingénieurs qui peuvent faire ça.
Et après aussi, j'avoue quand même que parfois les ouvrages, la plupart du temps, là où on fait on demande, on est rigoureux dans l'application de ces études-là, G3, c'est des projets qui sont quand même consistants. Et dans la plupart du temps, on fait intervenir des bureaux d'études spécialisés, quoi. Je sais par exemple que sur mon projet, nous on avait Terrasol qui nous suivait en G4. Mais qui travaillaient du côté de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que eux, ils contrôlaient en G4 ce que nous on faisait. Donc, tout ce que nous on faisait.
Vous trouvez un laboratoire qui fait les sondages, vous faites vos calculs en G3, ou bien vous faites vos calculs et puis vous leur soumettez ça.
Tout à fait. Et eux, ils doivent valider nos calculs. C'est ça, la G3. En fait, la G4. La G4 et la G3 se font de façon parallèle, mais simultanée. Mais avec des responsabilités différentes. La G3, ouais. G3 est sous la responsabilité de l'entreprise et la G4 a la responsabilité du maître d'œuvre. Voilà. Et par exemple, sur même un de nos projets, on était obligé de faire appel à M. Bustamante. Je ne sais pas, ceux qui connaissent un peu les fondations, quand tu ouvres un livre, presque partout, tu vois son nom, je ne dirais pas que c'est l'incarnation de la connaissance des fondations en France, mais c'est quasiment ça, quoi.
C'est, on va dire, une des personnes incontournables, au fait.
Le mec qui a écrit, qui a contribué à écrire les normes de calcul de fondation, etc., etc. Donc, c'est vraiment une expérience enrichissante. Il nous a même expliqué certains articles de la norme, vu que c'est lui qui a participé.
Oui, c'est lui qui a écrit, pas qui a participé ou bien qui a écrit, donc j'imagine que c'est... C'est plus fluide au fait venant de sa bouche, quoi.
Là, je pense qu'on rentre dans des détails que peut-être les amateurs ou les novices ne pourraient pas comprendre. Mais bon,
je pense ouais, ils vont peut-être s'ennuyer, mais bon, tout compte fait, je pense qu'il y a certaines parties qu'on pourra enlever, hein, donc mets-toi à l'aise. D'accord. On va parler maintenant des projets que tu as eu à faire. Bon, tu m'as dit que tu n'as pas terminé le projet de briques en terre cuite. Donc, je pense que là, on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais par contre, au niveau de la réhabilitation du pont Félix-Houphouët-Boigny, je pense qu'il y a vraiment, tu as beaucoup à nous dire sur ça. D'abord, tu peux expliquer brièvement le projet avant d'entrer dans les détails géotechniques pour que tout le monde puisse comprendre en fait ce qui s'est passé.
En fait, le projet de réhabilitation du pont, c'était en fait de remettre une réhabilitation, c'est-à-dire de remettre le pont à neuf, mais sans construire un nouveau pont, c'est remettre le pont à neuf. En fait, remettre le pont à neuf, il y avait plusieurs paramètres à analyser. Il y avait déjà la superstructure, ça veut dire tout ce qui est pile, tout ce qui est tablier, etc. En fait, on a vu qu'il y avait un état de dégradation. En fait, vu l'histoire du pont, je pense que l'État ivoirien ne voulait pas abandonner le pont. Donc,
Oui,
ils ont voulu.
c'est vraiment vieux, quoi. Et je pense pas qu'avant ça, il y a eu une réhabilitation. En tout cas, de mémoire, je ne me rappelle pas.
Quand je suis arrivé, j'ai vu l'état de dégradation du béton. Je me suis dit, waouh, c'est sur ce pont-là qu'on roule tous.
Oui,
Franchement, il est.
mais tu sais que même en roulant, souvent, comment on appelle ça? Déjà, les joints n'étaient plus ça, donc c'était
On voyait
vraiment
déjà.
compliqué, quoi.
Tablier, on voyait que les joints étaient morts, ça c'est sûr. Donc en gros, c'est ça. Et après, dans les investigations, on s'est rendu compte qu'il y a en fait une faiblesse des fondations existantes. Donc ça veut dire, si on réhabilite la superstructure et que, si on réhabilite la structure et que après les fondations, on n'y touche pas, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc il fallait trouver une solution aussi de renforcer les fondations. Donc au début, le projet, c'était de renforcer les fondations. Ça veut dire faire des fondations complémentaires et les rajouter aux anciennes fondations.
D'accord.
En fait, pour ça, il fallait savoir quelle est la part du poids de l'ouvrage que les anciennes fondations supportaient pour pouvoir mentionner les nouvelles fondations et en fonction de la charge résiduelle à reprendre. Et pour quantifier ces charges-là, c'était ce poids-là, c'était difficile. Donc en fait, en fin de compte, on a décidé, comme c'est comme ça, on va remplacer totalement les fondations. Donc le projet, c'était à la fois de remplacer les fondations du pont et de refaire la structure, de réhabiliter la structure, réparer les bétons. Et c'est un pont en béton précontraint. Donc, il fallait mesurer la précontrainte résiduelle et voir si c'était suffisant. Sinon, dans le cas, on était obligé de faire de la précontrainte additionnelle. C'est-à-dire, on a rajouté des efforts de
Oui.
précontrainte pour en faire renforcer la structure. Bon, là n'est pas le.
D'accord, mais avant de continuer, déjà, le projet initial, c'était vraiment le tablier.
Le projet
C'est ça?
initial a établi.
C'était
Au
renforcer
fur
le tablier.
et à mesure, pas que le tablier et réparer les bétons. Mais au fur et à
OK.
mesure en fait, des investigations, ils se sont rendus compte que les fondations aussi étaient dégradées en fait. En
Maintenant,
fait,
j'ai une question. Tu dis que vous n'avez pas pu estimer au fait le poids que reprenaient les fondations existantes. Maintenant, ça, c'était dû à quoi? Parce que bon,
Il fallait les
je me
quantifier.
dis qu'on a comment on appelle ça? On fait une descente des charges, on sait comment on appelle ça, les différents types de combien de fondations on a, ainsi de suite.
Oui, mais le problème, c'est qu'actuellement, ton béton de fondation existant, il est dégradé. Tu sais, si tu fais ta descente, c'est ce que les fondations reprennent quand ils ont été conçus. Mais depuis 1951 à maintenant, avec leur état de dégradation actuel,
Oui.
quelle est maintenant la charge que les fondations peuvent prendre réellement? C'est ça qu'il fallait quantifier, en fait.
Oui, j'imagine que ça, c'est pas évident.
C'est ça qu'il fallait quantifier. À la limite, fallait peut-être mettre de l'instrumentation dans l'eau, dans la lagune, et faire un suivi pendant je ne sais combien d'années. Et après, ça, c'était pas vraiment évident, quoi. Et après, pour la pointe, je dirais peut-être, ça allait être compliqué quand même. Parce qu'il
Pour comment
fallait
on appelle ça, la
le
pointe
frottement.
des différents pieux ou les frottements latéraux.
Les frottements latéraux surtout. Pour ça, il fallait peut-être, moi, c'est ce que j'imagine. Peut-être que ce qu'il fallait faire, c'est peut-être carotter à l'intérieur, mettre des extensomètres. C'est-à-dire, il fallait carotter chaque pieu jusqu'au
C'est ça.
fond, mettre des extensomètres et après attendre. Voilà, bon, je vais continuer avec la présentation du projet comme ça.
Vas-y.
En fait, on a finalement décidé de remplacer les fondations. Et en fait, nous, on a soumissionné au projet en groupement avec Eiffage Génie Civil, qui est une entreprise qui est plus spécialisée en structure. Donc, eux, ils allaient s'occuper de tout ce qui est tablier, tout ce qui est pré-contrainte, etc. Et nous, on s'occupait de la fondation. Voilà. Donc, en fait, de manière simple, on faisait les nouvelles fondations parce qu'on n'avait pas le droit, en fait, d'arrêter le pont. C'est une des contraintes. Vu comme ça, c'est simple, mais croyez-moi, c'était vraiment la contrainte la plus difficile à gérer. Garder le pont en activité,
Et puis travailler,
garder le
faire
truc.
de nouveaux pieux, soulever le tablier, mettre ça sur les nouveaux pieux.
Garder le trafic sur la lagune avec notre ponton pour faire les pieux. Donc, c'était contraignant. Donc, c'était ça. Donc, en fait, la méthode, c'était de faire les nouveaux pieux et après faire des poutres. Après les poutres, on faisait en fait ce qu'on appelle des longrines et on veut sur les poutres, en fait, on fait en fait de faire un verrinage pour faire le transfert de charge. Ça veut dire, en fait, ça veut dire on passe les longrines et après les poutres viennent sous les longrines et après on met les appareils avec un vérin. On va charger, en fait, on va soulever, en fait, le pont,
Le tablier.
soulever en le mettant en charge sur les nouvelles fondations. Donc, en fait, après, les fondations existantes vont être là, mais en fait, elles vont exister, mais elles serviront
Elles
plus à
seront
rien.
plus en, comment on appelle ça, sous charge en fait. Il n'y aura pas de, elles vont pas reprendre de charge.
Tout à fait.
Donc actuellement, on passe sous le pont. Les anciennes fondations sont là, mais elles sont là juste pour la forme en fait.
Et la problématique en termes de fondation, c'est que on devait faire ces nouvelles fondations-là à côté des fondations existantes. Et on ne devrait pas non plus dépasser la profondeur des puits existants pour éviter de déstabiliser le sol sous les puits existants. Parce que si on dépasse là, si on fait un trou, par exemple, en cours de forage, on fait un trou sous les fondations existantes, ça veut dire que le terrain à côté, il n'est plus dans son état
Dans son
initial. Ça veut
état
dire que
initial, oui.
il va vouloir s'équilibrer. Et il
Et
peut, en
on va
fait,
sûrement avoir des tassements.
peut avoir des tassements, tout à fait. Donc pour ça, on ne devait pas dépasser les puits existants. Et comme on ne doit pas dépasser les puits existants, ça veut dire qu'on va faire une descente de charge. On va faire un calcul avec les pieux à la profondeur des puits existants, avec le diamètre qu'on va faire. Et on va voir si ça peut reprendre la descente de charge. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte qu'un pieu classique ne pouvait pas reprendre la descente de charge. C'est-à-dire, en fait, les pieux à cette profondeur-là ne peuvent pas, classiquement comme ça. Il aurait fallu qu'on descende les pieux plus bas, et comme on ne peut pas le faire, il fallait qu'on trouve une autre solution
Oui.
pour augmenter la distance des pieux sans dépasser la profondeur des pieux existants. Donc, en fait, la solution qu'on a trouvée, c'était de faire les pieux jusqu'à cette profondeur, et en fait, faire un renforcement des nouveaux pieux avec une technique qu'on appelle le jet grouting.
D'accord.
Voilà. En fait, donc c'est ce qu'on a fait. On fait un renforcement en pointe et en fait, la résistance en pointe du pieu sera plus élevée qu'une résistance en pointe d'un pieu classique à cause de ce traitement par jet grouting.
Le traitement, c'était à peu près sur combien de mètres en dessous de chaque pieu?
2,50 m. En fait, si tu veux, comme on ne doit pas dépasser la profondeur des pieux existants, on
Oui.
arrête les nouveaux pieux 2,5 m au-dessus des pieux existants, parce que quand je dis on ne doit pas dépasser, c'est y compris le traitement de sol. Donc, les pieux existants 2 m au-dessus du niveau des pieux existants, de la base des pieux existants, et on fait le renforcement sur les 2,50 m qui restent. C'est-à-dire, en fait, le jet, c'est quoi? On va venir, on va descendre une colonne de tige, et en fait, par rotation, on va mélanger le terrain avec du ciment. le ciment, en fait, en durcissant, il va augmenter la résistance du sol, en fait.
À haute pression, il faut peut-être préciser ça, parce que mélanger du ciment directement comme ça.
De l'injection classique. De l'injection classique, ça se fait à quoi? À 5-10 bars. Là, on parle d'une injection à 400 bars, quoi. 400-480 bars.
Ouais. Donc, le traitement a été fait, comment on appelle ça? Avant ou après les pieux?
Non, tu le fais après les pieux.
Pouvoir assurer. D'accord. Tu fends tes pieux jusqu'à, on va dire, à peu près la profondeur des anciens pieux, moins 2 mètres, 2 mètres 50. Okay. Et après ça, maintenant, tu fais le traitement en pointe.
En fait, on a des réservations à l'intérieur des pieux qui vont nous permettre, en fait, de descendre notre outil de jet jusqu'au oui. fond du pieu. Et faire maintenant un forage sur les 2,50 m, les deux derniers mètres.
Et ces réservations-là, c'est à peu près quoi le diamètre?
En fait, nous, on avait des tubes de 168 de diamètre, 168 mm.
C'était les mêmes réservations pour l'auscultation sonique?
Oui, on était obligé de le faire parce que sinon, on allait avoir beaucoup de tubes de réservation. Donc, on a utilisé les mêmes tubes. Pour faire le jet, ça veut dire en fait quand on finissait un pieu, vu qu'on utilisait du ciment pour le jet, quand on finissait un pieu, on faisait d'abord l'auscultation sonique du pieu.
Oui.
Pour confirmer la qualité du pieu, on venait maintenant faire le traitement par jet et on remplissait le tube sonique avec du coulis de ciment.
D'accord, tu parles d'auscultation sonique, je pense que pour les novices, les jeunes ingénieurs et techniciens, peut-être qu'il faut expliquer un peu c'est quoi l'auscultation sonique pour un pieu.
C'est ton travail, ça.
C'est, bon. C'est mon travail, mais aujourd'hui, c'est toi qui parles.
L'auscultation sonique, c'est une méthode de contrôle de la qualité des pieux. En fait, il y a plusieurs méthodes de contrôle de pieux. Et là, c'est l'auscultation sonique. C'est la méthode, disons, la plus précise ou la plus qualitative, je dirais, parce qu'elle permet de contrôler la qualité du béton, effectivement, et la qualité d'exécution du pieu. Donc, en fait, le principe, c'est de descendre deux sondes au fond du pieu. C'est-à-dire, on a une sonde émettrice et une sonde réceptrice. Et en fait, on les remonte à vitesse constante.
Constante ensemble.
En fait, la sonde émettrice, elle va émettre un signal sonore, comme on le dit, c'est sonique, c'est le son. On va émettre un signal sonore qui va se propager dans le béton et en fait arriver à la sonde réceptrice. En fonction de ce que trouve l'onde sonore, en fonction de ce que l'onde sonore trouve dans le pieu, la réponse n'est pas la même en fait.
Oui, la vitesse peut changer, l'amplitude aussi du signal peut changer.
Et en fait, la réponse du signal sonique n'est pas la même en termes d'amplitude, en termes de vitesse de transmission. Donc, par exemple, quand c'est dans le béton, vu que c'est que dans le béton, on va avoir une réponse qui est similaire et qui est constante sur toute la hauteur quand on remonte. Mais une fois que l'onde va croiser en fait un obstacle, ça veut dire, je sais pas, n'importe quoi, une poche de sable, autre chose, en fait, son amplitude va être modifiée, sa vitesse va être modifiée. Et ça permet en fait de voir qu'à cette profondeur, à tel endroit, il y a une singularité. C'est comme ça que la norme est définie. Et la norme, en fait, est définie des critères à partir duquel on dit.
On dit que c'est une singularité qui doit être, disons, qui est préjudiciable à l'ouvrage ainsi de suite.
Tout à fait. Donc, on regarde les singularités et après, on analyse les résultats. On peut identifier la profondeur de la singularité. Après, on peut faire plus d'essais pour savoir ce qui s'est passé vraiment. On peut par exemple faire un carottage à cette profondeur et sortir le béton et voir quel est l'obstacle que l'onde a rencontré. Et après on
peut renforcer par soit des injections ou bien d'autres méthodes.
Faire un traitement, c'est ça.
Voilà. Je vais juste ajouter un complément, c'est que la seule faiblesse de cette méthode-là, c'est peut-être le fait qu'on ne peut pas voir les fissures horizontales, on va dire. lorsqu'on a une fissure horizontale, la méthode sonique ne nous permet pas de la situer correctement. Par contre, l'impédance, oui, avec ça, on détecte directement la fissure, quoi.
Oui, c'est vrai, mais très rarement on a des micro-fissures horizontales en pieu. En fait, quand tu as quelque chose d'horizontal, ça voudra dire que ton pieu il est soit totalement
Oui,
coupé.
c'est scindé carrément.
Quand il est totalement coupé, ça, l'auscultation sonique, tu le vois clairement. Mais si c'est des micro-fissures, si c'est simplement des fissures, comme tu l'as dit, des fissures
Non, non, pas.
horizontales,
Je parle plutôt du fait que on a vraiment un problème avec le pieu et puis il est vraiment scindé, quoi. Là, l'auscultation sonique nous permettra pas vraiment de situer. Par contre, si on avait de l'impédance directement, on va s'arrêter là et puis on sait qu'il y a un problème, on continue pas, quoi.
mais si le pieu il est coupé, le souci, tu le vois clairement, tu vas voir que ton onde va devenir horizontale si tu utilises, par exemple, je sais pas si c'est le choum ou même celui du CIBTP, là, c'est.
C'est le Shroom que j'utilise, mais bon, je pense que
Ouais.
dans la documentation, comment on appelle ça, on parle un peu de ça. Mais bon, comme j'ai jamais croisé un cas, peut-être que c'est pourquoi.
Le pieu il est coupé, tu vois,
J'ai pas compris.
Il est coupé, tu vas le voir. Même si c'est juste coupé par reprise de bétonnage, par sonique, tu le vois.
D'accord.
Pour
Donc.
les petites fissures horizontales, ça, j'ai pas encore eu le cas comme ça. J'ai vu des cas là où on avait de grosses singularités, le pieu qui est totalement coupé en deux. Après, voilà. Ça, j'en ai vu une fois.
D'accord.
C'était
Maintenant,
pas.
autre chose encore pour comment on appelle ça, l'auscultation sonique, c'est que ça permet vraiment d'avoir une idée précise sur la profondeur du pieu, quoi.
C'est ça,
Ouais.
c'est
En
ça.
plus de la qualité, bon, l'homogénéité, pas la qualité, l'homogénéité du béton, on a vraiment une idée précise sur la profondeur du pieu.
Après, n'empêche qu'avec enfin, tu fais bien de dire l'homogénéité, mais tu peux aussi déduire la qualité du béton. Parce qu'avec la vitesse de transmission de l'onde, tu peux arriver à déduire à peu près ton module de. Pas le module, mais avec la vitesse, tu peux à peu près savoir. Si ton béton est de bonne qualité ou pas.
Oui, mais bon, après, de bonne qualité, on n'est pas qualitatif, qualitatif, quoi.
Peut-être.
D'accord, on va continuer, on va pas entrer dans ces détails-là. D'accord, donc je te laisse continuer.
En gros, c'est ça. Le projet, c'était ça. Donc, on a dû faire des pieux d'essai. Ça veut dire voir qu'est-ce que le jet grouting peut rapporter de façon quantitative comme amélioration à la capacité portante des pieux. On a fait des pieux d'essai avant de finaliser les études et de réaliser les pieux d'ouvrage. Voilà. Et en fait, en lagune, c'était pas tous les jours facile parce qu'il fallait gérer le trafic, fallait tout ça. Et d'ailleurs, il y a un bateau qui a tapé un de nos pieux. Et imagine, il a tapé le pieu, il a bougé de presque 3 mètres en tête.
Combien?
3 mètres.
3 mètres. C'est-à-dire qu'on avait une tour de piste, quoi.
Le choc était, j'ai plus rien à tête, mais je pense que c'est un chaland, c'est un bateau qui transportait de la boue. Je pense qu'il était presque 800 ou 1000 tonnes. C'est comme si tu appliquais un effort de 1000 tonnes en tête. Un
Si,
effort
si,
horizontal.
je vois. Et comment est-ce que vous avez résolu ce problème-là?
À remplacer. Tu peux rien faire d'autre. Tu fais un autre pieu à côté pour remplacer et c'est tout. Et on a coupé le pieu.
Wow.
Pour ne pas gêner le trafic, etc. On a coupé le pieu à 6 mètres, donc dans l'eau. On a coupé le pieu dans l'eau.
Depuis on parle, on n'a pas parlé de la profondeur des puits.
La profondeur des pieux variait entre 38 et 65 mètres.
38 et 65. C'est ça?
38 et 65. Le plus
D'accord.
profond était au milieu de la lagune. 65.
J'imagine que, comment on appelle ça, les anciens puits aussi étaient, les puits existants étaient dans cet ordre de profondeur. Mais comment vous avez déterminé avec, on va dire, certitude, eux, leur profondeur, puisque depuis 1951, il n'y a pas eu d'entretien et tout. Bon.
On a fait ce qu'on appelle des essais de sismique parallèle. En fait, la sismique parallèle, c'est un essai qui te permet de terminer la longueur de ton puits à 1 mètre près, plus ou moins 1 mètre. Donc, en fait, la norme indienne, la méthode, elle est précise à 1 mètre près. En fait, ça consistait en fait à faire consistait en fait à faire un forage,
Oui.
à mettre en fait
À côté du pieu.
ouais, à côté du pieu, à maximum 1,50 m du pieu. Et on descendait en fait, on mettait un tube qu'on scellait avec le terrain.
Oui.
On scellait et après on tapait, on émettait. En fait, c'est comme le sonic, sauf que là en fait, tu descends la sonde à différentes profondeurs et tu émets en fait un choc sur la tête de ton pieu. Tu émets
D'accord. Un peu comme une combinaison de sonique impédance, alors.
tout à fait. En fait, tu émets un choc et en fait l'onde de choc va en fait se propager vers la sonde réceptrice et en fait après tu as des courbes en fait qui te permet en fait une fois quand tu arrives à la pointe de ton pieu la transmission n'est plus la même. En fait tu as une cassure en fait vers la fin de ton pieu te permet en fait
C'était bien pour déterminer la profondeur seulement, ou bien il y avait d'autres paramètres que vous obtenez avec ça.
Dans notre cas, c'était juste là.
Mais au fait, là, il y a une question qui me vient. J'ai l'impression que c'est pareil que l'impédance. C'est quoi la différence? Puisque l'impédance, on pouvait déterminer la profondeur avec ça aussi, ou bien on n'avait pas vraiment accès à la tête du pieu.
Si, on a l'accès à la tête du pieu, mais le souci de l'impédance, c'est que c'est moins précis en fait. C'est moins précis. Comme je t'ai dit tout de suite, la sismique parallèle te donne le truc avec une précision de plus ou moins 1 mètre. En fait, tu fais c'est une combinaison de plusieurs mesures à différentes profondeurs. Tu peux faire les mesures par pas de 1 mètre. C'est-à-dire que tu descends la sonde réceptrice à 1 mètre, tu émets, tu vois si ça reçoit. Ça reçoit, c'est-à-dire la manière dont le signal est transmis.
Oui.
C'est que là, tu descends à 2 mètres, etc., etc. Et après, en fait, tu as des courbes sinusoïdales. Et en fait, après, tu as une cassure. Et après, au niveau de la cassure,
D'accord, donc c'est plus précis en fait.
c'était le. Je pense que ça, c'était moins compliqué par rapport à définir la position exacte des puits existants. Vu qu'on était à côté des puits existants,
Oui.
notre était de ne pas toucher un puits existant pendant le forage. Sachant qu'on a des puits inclinés. Parmi les puits existants, on a des puits inclinés. On a des puits inclinés de 15 degrés.
Oui.
De connaître que nos devanciers, nos prédécesseurs, c'était quand même des génies, quoi. Ils ont fait cet ouvrage en 1951 dans
Je
toute la.
t'assure. Mais
C'est
au niveau pour comment on appelle éviter les pieds inclinés, comment vous avez géré ça?
On a fait d'abord de la bathymétrie. Une méthode topographique, je ne saurais pas t'en dire plus.
Non, je
Après, on
pense
a eu.
que, comment on appelle ça, les auditeurs pourront chercher sur Google, c'est quoi la bathymétrie. Si c'est pas ton domaine, tu t'embêtes pas avec.
Bon, je ne veux pas. On a fait ça. On a fait de la bathymétrie. C'est ça qui a permis de définir la position.
Exact, des différents puits existants.
On a fait une autre méthode qui était plus poussée. Désolé, le nom ne me revient plus.
D'accord, si ça te revient, après on pourra mettre ça dans la description de l'épisode, c'est pas un souci. Juste pour donner une idée aux personnes qui sont pas du domaine ou bien au nouveau, la lagune fait combien de mètres de profondeur? On a des puits qui varient entre 38 et 65 mètres, et la lagune elle fait combien de profondeur?
Le tirant d'eau, il était compris entre 8 et 15 mètres.
Entre 8 et 15 mètres.
Mais en réalité, si on est descendu aussi profond, c'est pour aller chercher le bon sol. Quoi.
Si, je sais, mais les personnes qui ne sont peut-être pas du domaine, on voit le pont, on voit les pieux qui descendent, mais bon, on ne peut pas imaginer que ça va jusqu'à 30, 60 mètres en dessous. Quoi.
C'est pour eux que je suis en train de parler.
OK. Donc, toujours sur le pont, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager avec nous?
Oui, il faut noter qu'on a fait un suivi. Vu que le pont il était en activité, on suivait les déplacements du pont 24 heures sur 24. En fait, on a installé une station topo automatique qui faisait des mesures presque chaque 10 secondes. Et en fait, il te donnait une courbe des tassements et des déplacements en X et en Y.
Oui. Bon,
en réel. Et en fait, les données étaient connectées à une application que le maître d'ouvrage AgiRoute avait sur son téléphone. On avait des seuils d'alerte. En fait, si jamais le pont avait bougé jusqu'à ces seuils-là, on aurait eu le téléphone, par exemple,
le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage aurait eu une alerte, quoi.
L'élève venait et tout de suite, on arrête tout de suite les travaux et on essaie d'investiguer, de voir à quoi c'est dû. Si c'est possible de continuer les travaux, s'il faut suspendre, s'il faut arrêter, etc. Voilà.
D'accord. Maintenant, le suivi, c'était des travaux nocturnes en un point fini. Hein. Même si je n'étais pas là-bas. J'ai mes équipes qui étaient là.
On travaillait jour et nuit, on travaillait 24 sur 24. C'était 7h, 7h, 18h, 19h, 6h du matin. Mais bon, voilà. Et comme ça, c'est un peu idée, mais il y a eu pas mal de défis. Ouais. Et d'ailleurs, sur ce projet, on a reçu le prix de l'ingénierie.
Le prix de
Soil Engineering. Le premier prix International Soil Engineering pour le jet qu'on a fait là-bas et pour tout le projet.
Ah, mes félicitations alors.
Merci.
Ok, tu dis que vous avez rencontré beaucoup de défis. Tu peux nous citer, disons, peut-être que tu en as déjà parlé, mais c'était quoi ton plus grand challenge au fait sur ce projet-là?
Mon plus grand challenge?
Ou bien, on va dire, comment on appelle ça, l'étape qui t'a vraiment marqué?
L'étape qui m'a marqué. L'étape qui m'a marqué, c'est vraiment les travaux de pieux, quoi. Les travaux de pieux pour nous, pour ce que moi j'ai fait, ce sont les travaux de pieux. Parce que travailler sur la lagune, sur un ponton, il fallait tout le temps. En plus, c'était pas un jack-up. Ça veut dire qu'on n'avait pas un ponton sur pieux. On avait juste un ponton flottant. Il fallait implanter les pieux avec. On avait 15 cm de tolérance sur les pieux. Donc, il fallait, avec la marée, avec le courant, implanter le pieu et tout stabiliser. Il y avait vraiment un gros défi de coordination, en fait, pour pouvoir finir dans les temps. Ouais. Parce que la lagune, depuis le percement du canal de Vridi, là, elle communique avec la mer. Donc, en fait, on a du courant, on a de la marée. Donc, pour pouvoir finir dans les temps, on regardait les marées pour pouvoir implanter les pieux, pour pouvoir travailler. On gérait le trafic sur la lagune. Franchement, c'est pas de la géotechnique, mais c'est ce qui m'a le plus impressionné. Bon, Et après, entre nous et Eiffage, il fallait qu'on se coordonne pour que nous, on finisse ici, pour qu'eux, ils travaillent. Nous, on a fini le projet quand même avec presque un mois d'avance. Donc, franchement, c'était challengeant, ça. C'était challengeant. C'est ce qui m'a le plus marqué, en fait.
La coordination qu'il y a eu sur le chantier pour arriver, atteindre les objectifs.
Je pense que peut-être ça va susciter des vocations. Il y en a qui voudront être soit ingénieur travaux, soit coordinateur études travaux, etc.
Je l'espère bien. Voilà.
Et après ça, l'autre chose qui m'a impressionné, c'était du côté de Eiffage au moment de poser les poutres. Parce qu'on avait des poutres qui pesaient jusqu'à 300 tonnes. Une poutre pèse 300 tonnes.
Combien de longueur?
Les poutres allaient jusqu'à 22 mètres, je pense, plus long. Je pense à peu près.
300 tonnes, là, il y avait des vérins de grande capacité, alors.
Oui, c'est plusieurs vérins après. Il y a plusieurs vérins qu'ils utilisaient, mais en fait, c'est surtout pour charger la poutre. En fait, ils ont fait venir un ponton automatisé. Parce qu'en fait, parce que quand tu fais monter la poutre, vu que le ponton, il flotte, du moment où il y a du poids à l'avant et qu'il n'y a rien à l'arrière, le ponton, en fait, commence à s'enfoncer à l'avant.
Avec le courant et tout?
Même pas qu'avec le courant, rien que le poids de la poutre. Parce que le ponton, tu le poses. La poutre, tu fais comme, en fait, ils ont, pour embarquer la poutre, ils ont prévu de les ripper. C'est-à-dire de les faire glisser sur le ponton.
Oui.
Mais une fois que la tête de la poutre, elle va monter sur le ponton, c'est-à-dire que tu charges l'avant.
Si, si.
Mais l'arrière n'est pas chargé.
Mm-hmm.
Donc, en fait, on va basculer à l'avant, en fait.
Je vois.
Pour pouvoir équilibrer ça, il faut que tu mettes du poids à l'arrière. Mais au fur et à mesure que la poutre va avancer, le centre de gravité, en fait, de l'ensemble de poutre ponton change.
Et il faut diminuer, au fait, ta charge que tu as appliquée.
Tout à fait. Il faut pouvoir gérer ça au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils avaient un ponton automatisé avec des capteurs. En fait, comment ils balancent les pontons? Les pontons, c'est des caissons. C'est rempli d'eau. Mm-hmm. C'est l'eau qui fait le contrepoids, en fait. Et en fait, quand la poutre, elle arrive, en fait, quand la poutre, elle est là, l'eau est chargée à l'arrière et au fur et à mesure en fait que la poutre elle commence à avancer dans le ponton, on vide l'eau au fur et à mesure pour diminuer le poids du ponton et équilibrer en fait avec la charge. Enfin, c'est le ponton vide automatiquement.
De manière automatique, quoi.
Et le capteur, le mec, il a sa grosse tablette. c'est impressionnant. Donc c'était. En gros, c'était le projet. Très intéressant. Je pense que même dans le monde entier, c'est des projets qu'on ne voit pas tous les ans.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Ce sont des projets très challengeants, mais en même temps, ça n'apparaît pas.
Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a reçu ce prix-là, cette distinction. Je pense que c'est lié aussi à la qualité du projet de façon générale.
Mmh. D'accord. Maintenant, après le pont Félix Houphouët-Boigny, je pense que tu as fait une période un peu plus courte, par contre, sur le chantier de la Tour F, au plateau.
Tout à fait. On a fait les fondations de la Tour F, 70 barrettes.
Faut peut-être expliquer les barrettes.
Oui, les barrettes, c'est des pieux rectangulaires, en fait. Depuis, au lieu d'être circulaires, ils sont rectangulaires. Dans notre cas, ils mesuraient 2,80 m de long par 1,52 m de large. Donc, voilà. Donc, en fait, on a fait 70 barrettes pour la tour F jusqu'à 65 mètres également de profondeur.
Là-bas, par contre, il y a eu un essai particulier sur les différents pieux, non?
Oui, on a fait des pieux d'essai. On a fait des pieux d'essai, c'est le chargement sur les pieux pour définir avec exactitude le frottement qu'on a sur ce type de terrain-là.
Mm-hmm.
Donc, on a fait des essais au sel, comme ça on les appelle, avec des cellules Osterberg. C'est Fulgro, c'est une entreprise spécialisée qui peut faire. En fait, ça consiste à mettre les vérins à l'intérieur du pieu par rapport aux essais de chargement classiques.
Tout à fait en bas ou au milieu, on peut choisir une position au milieu.
On choisit en fait en fonction de ce qu'on cherche et en fonction de pouvoir équilibrer en fait le frottement et puis l'effort de pointe. En fait, il y a différents calculs qui sont faits. Et nous, on a fait deux pieux d'essai et les cellules étaient positionnées à des profondeurs différentes. Donc, voilà.
Il faut aussi rappeler que ces cellules-là, c'est considéré comme quelque chose de perdu, hein, parce que quand on met, on va plus pouvoir enlever.
Même le pieu après, c'est...
Les pieux d'essai. Mais bon, est-ce que tu peux expliquer brièvement le principe?
En fait, le principe, c'est de descendre des cellules. Les cellules, en fait, c'est des vérins qu'on descend avec la cage d'armature et qu'on bétonne, en fait. Et en plus de ça, on fait des réservations, on met ce qu'on appelle des extensomètres. Des extensomètres.
Mm-hmm. Pour mesurer, on va dire, les très petits déplacements qu'il y aura.
Et on a un petit... on met des tiges aussi jusqu'au fond du pieu pour mesurer le déplacement de la pointe. Et en fait, une fois qu'on commence l'essai, à quoi consiste l'essai? L'essai consiste à appliquer en fait des charges au pieu, des charges de compression essentiellement au pieu, par palier, et en fait à mesurer en fait le déplacement du pieu. On mesure le déplacement du pieu à chaque charge pendant une heure jusqu'à ce qu'on atteigne en fait la rupture. Quand on dit la rupture, c'est jusqu'à ce que en fait
le pieu ne tienne plus.
Voilà, le déplacement du pieu soit très grand. Donc, ça veut dire, habituellement, c'est un dixième du diamètre.
Habituellement, c'est
10 sur 100. 10 sur 100 ou 10 sur 100.
D'accord. Quand on met la cellule dans la cage d'armature et puis on bétonne, c'est combien de temps après qu'on fait le test? 28 jours après minimum ou...
En fait, au minimum, c'est 7 jours, mais après, tu as une résistance minimale du béton que tu dois attendre avant de faire les essais.
Dans votre cas, c'était quoi?
C'était de l'écrasement. Nous, on avait du béton c'est 35-45.
Bon, quand tu dis qu'il faut avoir une résistance minimale, c'est-à-dire que peut-être que votre béton, il est de C35-45, mais la résistance minimum, c'est peut-être de 30 ou de 25 qu'il faut avoir avant de lancer l'essai, ce que je dis. C'est ce que je demande,
80% de la résistance.
80%, ah ok, d'accord. Donc là, on n'a pas vraiment besoin d'attendre les 28 jours.
En fait, c'est le calcul de la résistance structurelle du puits qui te donne cette résistance-là. Je n'ai plus la valeur en tête. Mais en fait, tu calcules la résistance structurelle du pieu en fonction de ton béton. C'est avec ça que tu as considéré. C'est cette résistance de béton que tu as considéré. Donc, il faut que tu atteignes cette résistance avant de pouvoir faire en fait ton essai. Donc, que tu écrases à différents âges. Et après, une fois que tu as la résistance, tu peux commencer tes essais.
D'accord. Après ça, quand vous avez commencé à réaliser, on va dire, les vrais pieux, puisque ça, c'était des pieux d'essai, vous avez finalement fait quoi pour vérifier l'homogénéité? C'était des impédances ou des auscultations?
On a fait des auscultations sur les barrettes. Sur un
sixième. Parce que... Hein? Un sixième en termes de ratio, quoi. Norme.
Ça, c'est les recommandations de la norme.
D'accord.
C'est 262, calcul de fondation.
Ok. Mais au passage, est-ce qu'avec les barrettes, on peut faire l'impédance? Je ne pense pas.
Non, c'est trop grand pour faire des impédances.
D'accord. Ozias, on tend vers la fin de notre épisode. Mais avant, d'accord, si tu avais des questions. Si tu avais des conseils à donner aux plus jeunes, les personnes qui commencent le métier maintenant ou bien qui veulent s'orienter vers ce métier, ce serait quoi?
Mais de toujours apprendre. Toujours apprendre, de ne jamais perdre une occasion pour apprendre. On apprend toujours. Même quand on connaît, on apprend toujours. Même avec la plus petite des personnes sur un chantier, que ce soit le manœuvre, que ce soit le technicien ou que ce soit aussi les plus qualifiés, on apprend toujours. Et quand vous faites quelque chose, faites-le comme si vous n'allez plus jamais le faire de nouveau. Faites cette chose comme si vous n'allez plus jamais faire ça de nouveau. Ça veut dire, si jamais tu vas plus le refaire, quelle est l'image que tu vas retenir de cette chose? Est-ce que c'était un échec? C'était un succès? Fais comme si tu ne vas plus jamais faire cette chose. Je pense que si tu réfléchis comme ça, tu voudras toujours bien faire, mieux apprendre. Après, seul le travail paye, comme on le dit, il faut, faut travailler, surtout faire ce qu'on aime. Ça, c'est le plus important. Faut pas aller dans une filière ou dans un domaine parce que comme moi, au début, je voulais faire du vide. Je trouvais qu'on gagnait beaucoup d'argent là-bas. Je pense que c'était une illusion. Et voilà, maintenant, je me suis retrouvé dans un domaine que j'aime, qui me fascine. Franchement, je kiffe, quoi. Il y a rien, en fait, de se lever le matin et de dire que tu vas faire ce que tu veux.
Ce que tu aimes, oui, tout à fait.
Même quand le réveil est difficile, une fois que tu arrives au bureau, je pense que c'est comblé, quoi. Voilà.
Et là, quand tu dis de toujours apprendre, je me rappelle que lors du projet du pont, tu étais toujours dans l'expérimentation, tu étais toujours en train de trouver des méthodes, comment est-ce qu'on va faire tel essai, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver telle solution et telle solution. C'est-à-dire qu'au fait, rien n'est figé. Souvent, on rencontre des choses qu'on doit faire et puis en réalité, on n'a jamais fait. Mais bon, il faut trouver des solutions, quoi.
C'est ça aussi, être ingénieur. Hein.
Ouais.
C'est un pont.
Il y a, comment on appelle ça, un des invités qui me disait dernièrement sur l'un des épisodes que on a besoin d'un ingénieur quand il y a un problème. En réalité, quand il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'ingénieur. Donc,
ouais.
Je pense que les plus jeunes comme nous, tout le monde doit garder ça à l'esprit, en fait. Les difficultés, elles arrivent, mais bon, il faut toujours trouver des voies et moyens pour les dépasser.
L'autre chose que je voudrais dire, c'est d'être proactif. Quand vous arrivez en entreprise, faut pas vous cacher derrière le travail, faut juste vous contenter de faire le minimum, avoir peur de prendre les décisions.
Des initiatives.
En fait, ce qui coûte le plus cher à une entreprise, c'est l'inaction. C'est pas les erreurs des uns et des autres, c'est l'inaction. Quand on paye quelqu'un qui est là et qui fait rien, et même vous, ça va vous tuer. Ça va vous tuer votre esprit critique, votre intelligence. Quand vous arrivez, n'ayez pas peur de donner votre avis. Même si vous vous trompez, on va vous corriger. C'est comme ça qu'on apprend.
Ouais.
Faut pas avoir peur de ça. Faut mieux vaut se tromper que de ne jamais rien dire. Savoir et se taire. Ah là, je pense que celui qui sait qu'il y a la solution et qui se tait est plus con que celui qui essaie et qui n'y arrive pas. Moi, c'est ma théorie. Voilà.
D'accord. Je pense que ils vont bien noter ça. Une dernière chose, est-ce que tu as des astuces ou des ressources pour garder une productivité?
Les astuces, c'est moi, je suis dans la gestion des hommes, je plaide en fait pour ce qu'on appelle un management attentif, en fait. Ça veut dire un management qui met le bien-être des personnes au milieu de préoccupations. Faut pas, c'est pas parce qu'on est le chef, qu'on est l'ingénieur ou qu'on est X, le directeur, qu'on doit en fait manquer de respect à ses subordonnés. Faut s'intéresser vraiment aux gens. Si on s'intéresse vraiment aux gens dans le travail, je pense qu'ils vous donneront le meilleur de vous. Pour une productivité, il y a rien de tel. Créer une bonne ambiance de travail. Quand il faut travailler et être sérieux, il faut l'être. Quand il faut dire les choses. Je pense que si tu te préoccupes de quelqu'un, tu n'as pas de difficulté à lui dire la vérité. De la même manière dont tu te préoccupes de lui quand il est dans des difficultés,
ouais.
Mais de la même manière, tu peux lui dire les choses qu'il fait mal quand il travaille pas bien. Ça, c'est une des choses. Et après, l'autre chose, c'est d'essayer en fait d'avoir en fait des journées productives. Les journées productives, c'est ne jamais être en retard à un rendez-vous, ne jamais être en retard sur le chantier, essayer d'arriver toujours très tôt le matin sur le chantier. Moi, j'aime bien arriver sur un chantier parmi les premiers, sinon le premier, 6h30. Ça te permet d'avoir une vision du chantier, là où il n'y a pas d'activité. Ça peut te remettre des idées en place.
Ou comment te donner de nouvelles idées.
Peut-être même t'alerter sur des problèmes que tu pourrais avoir et que tu n'aurais pas vu si tu te regardais pas tout à tête reposée, etc. Ça c'est important. Je dis pas de ne pas se reposer, de dormir au chantier, mais voilà, ça c'est une astuce que moi j'aime bien. Quand je suis vraiment surbooké, arriver tôt au chantier me permet par contre de prendre du recul par rapport à toute l'activité de la journée. Et de préparer en fait la journée de travail. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Ce fut vraiment un plaisir. On a parlé beaucoup technique. J'espère que les auditeurs vont pas trop s'ennuyer. Mais bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retirer de cet épisode. Donc, il y a pas vraiment de soucis à ce niveau. Donc, c'est la fin. Si tu as un dernier mot de fin, je te le laisse ou bien on va arrêter.
Non, je pense que c'est bon. J'ai déjà dit l'essentiel. Et voilà.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour la disponibilité et le temps que tu as accordé. Il est bientôt 23h, mais bon, merci encore. Ok, donc Ozias, c'est la fin. Porte-toi bien.
C'est au plaisir.
Au revoir.